Bonjour à tous. Vous m'entendez, oui? Ok, je pense que je suis bien. J'ai bien bougé le piton qu'il fallait bouger. Je suis pas un pitonu par nature, alors au moins un piton à la fois. Excellent. Vous êtes beau. Ça fait du bien d'être avec vous ce matin. On a couru partout un peu, en Ontario, au Québec. On a visité plusieurs églises jusqu'à maintenant. On est ici, pour ceux qui ne le savent pas, depuis le mois de juin. Et je vais vous dire une chose, que la vie de missionnaire, c'est une vie de montagne russe. On est dans la joie, puis on est dans la tristesse. On est dans la joie, puis on est dans la tristesse. Ça s'approche déjà le temps de partir encore. On est ici jusqu'à la fin janvier, n'est-ce pas? Et on ne pensait pas de prendre engagement pour le mois de janvier, parce que les préparatifs pour partir quand même sont assez achalandés, mais il y a déjà deux églises qui ont réussi à nous convaincre d'aller les visiter le mois de janvier. Mais on va le faire par la grâce des yeux. On est là pour ça. On est là pour être un élément de constructif envers l'Église du Seigneur ici au Québec. Et tout en passant, frères et sœurs, merci. Merci pour vos prières. Merci de votre soutien. Merci de la façon comme vous avez été impliqué dans ce projet missionnaire là-bas, au Chili, aux extrémités de la terre, littéralement. Il n'y a pas un autre pays plus loin. Si vous continuez, vous arrivez à l'Antarctique. Hein, vous êtes ici tout proche de l'Arctique. Nous sommes là-bas, tout proche de l'Antarctique. C'est à l'autre extrême de la terre. Mais le Seigneur, partout où est-ce que le parfum de sa grâce et de la connaissance de sa parole passe, il laisse le salut pour les âmes. Frères et sœurs, nous sommes vraiment contents d'être avec vous ce matin. Vraiment, c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir visiter la famille. Vous êtes notre famille depuis bien des années, n'est-ce pas? Et on s'impliquait ici par l'entremise de l'église évangélique baptiste de Longueuil, qui maintenant c'est l'église de l'espoir. On s'impliquait avec tout l'appui de l'église française dans une église hispanique, et je vois encore quelques fruits présents ici, et nous avons travaillé comme un seul homme pour pouvoir aller chercher les âmes perdues de caractère hispanophone pour la gloire des yeux. Puis le Seigneur l'a fait par sa grâce et sa miséricorde. Alors Hélène va continuer avec un petit aperçu. Je pense que j'ai parlé assez. Et je vais laisser que ma femme parle. Quelqu'un m'a dit une fois, si vous voulez être heureux, les hommes des yeux, écoutez vos femmes. Alors je vais écouter ma femme. Elle.
Il change son introduction à chaque fois, fait que je ne sais jamais quand elle se rentrée. Ça fait du bien d'être à la maison. Je vous donne mes salutations, puis les salutations aussi de l'Église de San Felipe. Alors, pour ceux qui nous connaissent, bon, vous savez qu'on est parti au Chili il y a 2 ans. Ceux qui ne nous connaissent pas maintenant, vous le savez, on est arrivé au Chili en juillet 2007. Le premier mois, on l'a utilisé pour voir la famille de mon mari, parce qu'Antonio vient du Chili, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, au mois d'août, on est arrivé à l'église de Viña del Mar. Tout à l'heure, on va avoir une vidéo, puis on voulait vous parler un peu avant pour que vous puissiez comprendre les images que vous allez voir sur le vidéo qu'on va vous montrer. Alors, on est arrivé à l'église de Viña del Mar. La première période de notre mandat, c'était de nous intégrer à cette église-là qui allait être notre allié pour aller implanter l'église à San Felipe, qui est à peu près à 2 heures de route de Viña del Mar. Viña del Mar, c'est vraiment sur la côte, à côté de la mer. San Felipe, c'est à côté de la montagne. Ça, c'est la largeur du pays, à cette hauteur du pays, du Chili. Alors, on est arrivé. Notre but à Viña del Mar, c'était de se faire connaître, mais aussi de connaître les personnes, puis de vendre la mission, vendre le projet de San Felipe pour qu'eux l'adoptent. Parce que l'idée de FEB International, avec les années, a changé un peu. Dans les pays où il y a déjà des églises déjà formelles sur place, FEB aime travailler avec ces églises nationales pour implanter d'autres églises. Alors, c'est ça qu'on a fait. On a travaillé avec l'église de Viña del Mar, et l'idée, c'était qu'elle puisse adopter le projet et sentir le projet comme sien, même si nous, on n'y est plus. Alors, c'était l'idée. Puis, par la grâce de Dieu, ce premier engagement-là, ce premier objectif a été atteint. Le pasteur a dit, quand on était près de notre départ, il disait à son église, les Baskounians doivent retourner au Canada pour quelques mois, mais on ne sait pas. Peut-être que Dieu va les garder là-bas. S'ils ne reviennent pas, on continue. Alors, ils ont vraiment saisi, c'était vraiment une bénédiction. Alors, on est déménagé à San Felipe au mois de février 2008. On a loué une maison qui a fallu rénover, une maison qui était vraiment laissée à l'abandon, mais qui avait des grandes pièces pour pouvoir commencer la nouvelle église. Alors, on est déménagé, comme je vous ai dit, en février, et au mois de mai, on a eu notre première réunion officielle de l'église.
Alors, l'idée de l'église, je veux dire, l'idée de la mission FEB internationale, la mission qui nous envoie là-bas, et ce n'était pas qu'on arrive là-bas et qu'on dise aux gens, venez nous aider. C'est plutôt nous que nous allons l'aider. Alors, pourquoi? Parce que dans le passé, beaucoup de missions qui se sont rendues au Chili ils ont pris cette attitude de venez nous aider, venez nous aider. Et les missionnaires, tout ce qu'ils ont fait, une bonne partie de ce qu'ils ont fait, c'est de devenir leur pasteur, devenir la personne principale, la personne étoile, que tout le monde s'adresse à eux. Ce n'était pas notre but du tout. La mission FEB internationale a changé de cap parce qu'on voyait que le Chili était très évangélisé, mais il reste très peu de contacts. Et beaucoup de monde sont des chrétiens nominales. Ils ne connaissent même pas la Bible. Ils ne savent même pas transmettre le salut à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que les missionnaires arrivaient là-bas dans les temps passés, puis devenaient pasteur de l'église. Avec l'argent de la mission, ils faisaient une belle bâtisse, un bel bâtiment. Après, ils achetaient les meubles, ils achetaient le piano. Ils avaient un bon salaire parce qu'ils étaient payés par la mission, n'est-ce pas? Surtout les missionnaires américains. Et après, quand les pasteurs missionnaires ils vieillissaient, ils retournaient dans son beau pays. Mais ils n'avaient pas pris le temps de former des leaders nationaux. Ils n'avaient pas pris le temps de leur donner un enseignement à l'Église pour soutenir leur pasteur national. Ils n'avaient pas donné cette vision-là à l'Église. Alors, quand ils se retiraient, ils s'en allaient avec l'argent, puis ils s'en allaient avec l'enseignement. Alors, l'Église restait complètement démunie de tout leadership. Alors, la mission FEB internationale nous a dit, vous irez là-bas, mais vous ferez partie d'une église locale, bien dirigée, avec un leader bien chevronné, afin que ce leader-là devienne votre allié. Et vous ne direz jamais à cette église, venez nous aider. Vous le direz, allons-y ensemble, allons voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Puis vous passez les défis comme ça, de telle façon que c'est l'église locale nationale qui va aller, certainement avec vous, mais tout en enveloppant une seule vision pour gagner San Felipe pour Christ. Maintenant, on a réussi à passer la vision, le pasteur est à 100% pour l'implantation de l'église, et je vais vous dire une chose, aujourd'hui, il reste à notre place, un homme qui s'est converti de l'islam au christianisme, Jalil Dahani, et c'est un homme engagé pour la gloire de Dieu, formé par les pasteurs nationaux, et formé un petit peu par notre exemple là-bas, et c'est Jalil Dahani, c'est un évangéliste hors pair. C'est un gars qui j'en avais besoin de lui, parce que lui va m'aider à préparer à d'autres, pour pouvoir les préparer pour l'œuvre du ministère. Maintenant, on a commencé le ministère à San Felipe, et on a... Je vais mettre mes lunettes, parce que par orgueil, je ne voulais pas les mettre, là. OK, on vieillit, hein. Et là, quand on est arrivé à San Felipe, c'est drôle, hein. On est arrivé comme des vrais missionnaires dans une terre inconnue. Jamais j'avais visité San Felipe quand j'ai habité le Chili. J'ai habité à 700, presque 800 kilomètres plus au sud. Jamais je connaissais San Felipe de nom. Et par toute la recherche qu'on a faite pour voir combien d'églises il y en avait à San Felipe et s'il y en avait un besoin. Puis les besoins étaient là. Et on arrive là, on ne savait rien de rien où était le marché. On cherchait à connaître la ville, on explorait. Puis on ne savait même pas où était la place. La place, c'est un parc bien carré, qui est un centre social. de la ville, lorsque tout le monde se rejoint le dimanche pour aller se promener avec les enfants, manger un petit crème glacée. C'est une place pour l'évangélisation incroyable. Et là, le pasteur m'a dit, je pense qu'il y a un couple de l'église baptiste de La Serena. La Serena, c'est 700 kilomètres plus au nord. Et je pense qu'il y a un couple qui est rendu là pour faire du travail. On a fait des recherches, on a demandé les téléphones, puis on a trouvé Roman et Marcella. Un couple, elle était enceinte, puis un couple qui était devenu tout de suite notre bras droit. Et vraiment, c'est un couple, très jeune couple, ils pourraient être nos enfants, mais qui vraiment aiment le Seigneur de tout son cœur. Puis il y a une petite fille charmante que vous allez voir dans les vidéos. Okay? Et on a fait 3 événements d'évangélisation massive. On a fait on a projeté un film dans la salle salon municipal. Et on a fait l'évangélisation porte en porte. 3500 traités ont été distribués au premier événement. Et quelques contacts sont sortis de là. Après, on a fait une pièce de théâtre pour les enfants, Le Bon Berger. Il est venu une troupe de théâtre de l'église de Vigna del Mar, l'église mère, puis a présenté ça aussi à plein air. Beaucoup de monde était présent, beaucoup de littérature on a donné. Encore d'autres contacts se sont ajoutés. Puis à la fin, on a fait à la fin de cette année-là, on a fait une cantate de Noël. Et aussi, il y avait un grand nombre de personnes. D'autres personnes se sont ajoutées. Puis actuellement, l'église baptiste de Saint-Philippe en formation, et il y a une assistance à peu près de 25 personnes dans une année de fonctionnement. Et nous rendons grâce au Seigneur qu'on a célébré notre premier anniversaire. Et notre ministère là-bas se résume à l'évangélisation, à la formation des disciples et aussi à la formation du leadership pour la future église. Parce que nous sommes appelés soit à déménager dans une autre ville pour commencer une autre œuvre avec l'aide de Saint-Philippe, parce que notre vision, c'est de faire de l'église de Saint-Philippe, la nouvelle église implantée, une église missionnaire. Parce que la raison d'être, d'accord à mon entendement et d'accord au cadre biblique, la raison d'être de l'église, c'est la mission. Sans mission, il n'y a pas de vision, n'est-ce pas? Je rends grâce pour l'église ici, de l'espoir qui a une vision pour la mission. Sans quoi, nous tournons en rond, nous ne faisons rien. C'est une église morte, sans vision, n'est-ce pas? Alors, non, Hélène a quelque chose à vous dire aussi.
Alors, juste avant de vous présenter la vidéo, c'est un peu un medley, un pot pourri des différentes activités qu'on a eues, incluant les 3 évangélisations massives qu'on a eues. Incluant le baptême, parce qu'on a eu notre premier service de baptême au mois de mars. Il y a eu 3 personnes qui se sont fait baptiser. Puis, vous allez voir des professions de foi. Il faut que vous compreniez qu'en Amérique latine, au Chili en tout cas, même en Colombie, c'est comme ça, les latins sont très, très spontanés. Okay? Puis, qui veut accepter le Seigneur? Puis, il y a beaucoup de mains. Okay? C'est ce qu'on appelle les professions de foi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? C'est qu'on les suit, on les visite, on leur présente l'Évangile, parce que souvent, ils n'ont pas compris l'Évangile. Puis, on en réchappe quelques-uns de ceux-là. Fait que ça fait un peu comme dans l'Évangile, qu'il y avait des grandes foules qui suivaient Jésus, puis au bout d'une secousse, il y en a qui restaient en arrière, puis après ça, encore un peu plus loin, il y en a d'autres qui restaient en arrière. Ça fait un peu comme ça. Alors, c'est juste pour la justesse de ce que vous allez voir. Pensez pas que tout ce monde-là est à l'église, ce serait formidable, mais c'est pas le cas, OK? Mais il y a quand même, je dirais, de ces professions de foi-là, il y en a quand même au moins 5 ou 6 qui sont vraiment convertis puis qu'on voit des fruits de conversion. Oui. Alors, je sais pas si on peut aller. Ça commence en silence, puis il y a la musique qui va arriver après. Fait qu'on fera pas de commentaires pendant le vidéo. Verset clé de l'évangélisation. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malga. mencioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecida en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que descanse, que no pasa nada. Y dormida en su regreso cada día.
Y nos alegra mucho de ver lo que Dios está haciendo aquí en San Felipe. Y como yo le he dicho en otra oportunidad, ustedes son los pioneros de la Iglesia Bíblica Bautista aquí en San Felipe. Y nos alegramos mucho de tener su presencia hoy día.
Tengo vida, tengo dueño y soy querida. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta, otro fin. Ya no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón.
Hay fiestas, hay bautismos, hay testimonios, hay cosas hermosas que Dios está haciendo en el corazón de las personas. Le damos gracias a los de Viña de haber venido de tan lejos.
La gracia y el perdón, su
misericordia. También en la resurrección de
Jesús. Cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz.
Feliz aniversario, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias por su amor sin par. Al fin de otro año hermoso de mi rito llegar. Feliz aniversario, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad.
La dame qui a soufflé la chandelle, c'est la première convertie du premier événement. C'est la señora Adriana, 76 ans.
Très bien. Alors, c'était ça, les vidéos. Imaginez-vous que ça, c'était préparé au Chili. Il était préparé par Jalil Dahani. Lui parle 6 langues. Il a préparé ça en français. Il était tout fier de préparer quelque chose pour l'envoyer au Canada. Il parle anglais, français, et sa langue maternelle, l'arabe. Il parle portugais, espagnol. C'est un gars incroyablement doué et très intelligent. Et lui, il travaillait à l'université pour, comme professeur de langue et a renoncé à son travail pour s'occuper de l'œuvre du Seigneur. J'ai trouvé ça, quand j'ai su ça, là, j'étais vraiment étonné. Mais ce n'est pas tout. Sa femme était professeure de mathématiques et physique à l'université et a renoncé aussi à sa profession pour s'occuper de l'œuvre. On a des bons collaborateurs, hein? Si le Seigneur ne fait pas quelque chose avec ça, il va le faire par la gloire de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes missionnaires? Parce que nous avons une dette d'amour envers Dieu. Lui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne périssions point dans l'enfer, mais afin que nous puissions avoir la vie éternelle dans le ciel. Alors, cette dette d'amour ne mérite pas autre chose que la répondre avec amour. Et nous voulons aimer le Seigneur en le servant de cette façon-là, de la même façon que vous aimez le Seigneur en appuyant la mission. Et je chante souvent un cantique qui reflète mon témoignage et qui reflète la réponse à cette dette d'amour.
Et on cette peut cantique, mettre la traduction.
Il y a une traduction dans la... Si vous voulez chanter le refrain après, là, avec nous, ce serait formidable.
Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, en el pecado encadenado, en tristeza y en error. Pero un día una luz me iluminó, era Jesús ofreciéndome el perdón.
El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad.
Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor. Como el ave en los aires, vuelo libre y sin temor. Y por su gracia del pecado libre soy. Solo Jesús pudo darme salvación.
El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad.
Chante avec nous en bas.
El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad.
Amén.
Que el Señor vous bénisse.
Hélène doit quitter parce qu'elle doit aller faire un petit rapport de notre ministère avec les enfants. Hein? Les enfants forment une partie intégrale de l'Église. Il ne faut pas les ignorer, n'est-ce pas? On dit souvent, les enfants, c'est l'Église de demain. Mais nous n'oublions jamais que nous sommes l'Église d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Et c'est à travers votre témoignage et le reflet de votre consécration que ces enfants vont devenir des hommes et des femmes plus tard consacrés et prêts à donner aussi leur vie pour le Seigneur. N'est-ce pas? Frères et sœurs, laissez-moi ouvrir la parole de Dieu un instant. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 10. Au Romains chapitre 10, la sainte parole de Dieu nous dit ceci. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils sont tous au même Seigneur, qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ainsi, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est comme résumé à ce que Paul argumente plus haut dans les versets qu'on vient de lire. Frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est un fait. On ne peut pas parler d'un autre évangile que l'évangile qui est écrit dans la parole de Dieu. Et même, le Seigneur dit que s'il y a quelqu'un qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, parce qu'il n'a pas un autre évangile. Il n'a pas de salut en aucun autre. Il n'a pas de salut en aucun autre sous le ciel. C'est le Seigneur seul qui est venu faire l'œuvre que personne ne pouvait faire. Et même si la Bible ne parle pas, plutôt ne dit pas, il n'écrit pas le mot mission. Avez-vous rendu compte de ça? Que le mot mission n'apparaît pas dans la Bible? Mais la Bible est pleine de missions. Missionnaire du début. Dieu avait déjà un sentiment missionnaire envers les nations. Quand Moïse était envoyé vers le peuple d'Israël, vers l'Égypte, pour libérer le peuple d'Israël, c'est une mission étrange, une mission qui ne tenait pas debout pour Moïse. Il ne voulait pas y aller. Il cherchait toutes sortes de prétextes pour ne pas y aller, n'est-ce pas? Mais le Seigneur l'envoyait pareil. Quand Dieu ouvre, personne ferme. Et quand Dieu ferme, personne ouvre, dit la parole de Dieu. Et pour Moïse, il avait une porte ouverte pour aller faire un travail de libération. N'est-ce pas? Le travail que vous faites, le travail que nous faisons, le travail missionnaire que nous avons tous ensemble, c'est un travail de libération. On doit libérer ceux qui sont esclaves dans les mains d'un étranger. N'est-ce pas? Du début, c'était comme ça. Il est comme ça encore. Le peuple d'Israël était esclave, était enchaîné, était forcé à dur travail par un peuple païen, n'est-ce pas, qui ne connaissait pas Dieu. Même si Dieu s'est fait connaître par des signes et des miracles quand Moïse est arrivé dans ce pays de l'Égypte, même l'Égypte était dure envers Moïse, en tenant compte de son pharaon, à qui tout le monde obéissait, n'est-ce pas? Mais Moïse, qui ne voulait pas y aller, parce qu'il disait qu'il n'avait pas de paroles faciles pour lui. Pour moi, qui avait un problème de langue un petit peu, on va l'envoyer à Jalil Dahani pour qu'il enseigne un peu, n'est-ce pas? Moïse a dit, je n'ai pas la parole facile. Pas grave, l'a dit Dieu. Je vais envoyer ton frère à Aaron. Mais si Pharaon dit, de la part de qui je viens? Mais ta carte de présentation, ça va être, je suis, m'envoie. Puis, il a donné même un outil de travail à Moïse. Qu'est-ce qu'il a donné à Moïse, le Seigneur? Un morceau de bois. Voyons donc. Un morceau de bois pour libérer un peuple. Moïse s'est posé mille questions, n'est-ce pas? Un morceau de bois. Un morceau de bois. Frère bien-aimé, les choses qui pour nous sont inconcevables, pour Dieu sont très logiques. Parce que lui fait comme ça lui plaît. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre Seigneur, et lui va nous envoyer là où il veut. Je me rappelle, j'avais juste quelques mois de vie de converti quand j'ai accepté le Seigneur au Pérou, quand je me suis reconnu pécheur, quand je suis venu à larmes au pied du Seigneur, puis il a dit, Seigneur, tu es trop bon pour moi, je ne mérite même pas d'être appelé un enfant des yeux. Mais le Seigneur m'a dit, viens sans moi. Viens sans moi, toi qui es fatigué et chargé, moi je vais te donner du repos. Et le Seigneur l'a fait. Et à partir de ce moment-là, il y avait en moi une soif, une faim, un désir brûlant dans mon cœur de servir le Seigneur coûte que coûte. C'était trop grand ce que Dieu venait de faire pour moi. Frère bien-aimé, un jour, un missionnaire de Word of Life, Palabra de Vida, Argentine, est venu à l'église pour donner un témoignage et pour lever un appel face à la mission. Et je lui ai dit en ce moment-là, après le message qu'a donné ce missionnaire, je lui ai dit, Dieu, quand tu voudras, où tu voudras et comment tu voudras. Moi, je ne m'imaginais même pas que le Seigneur allait m'amener du Pérou, où il fait chaud, jusqu'au Canada, où il fait très froid. Voyez-vous les choses illogiques, lamentablement? Il a fait ça, Moïse, là, un morceau de bois dans sa main là, pour libérer un peuple. Lui s'attendait peut-être qu'il lui donne une grosse armée pour aller combattre l'armée de l'Égypte, mais non, un morceau de bois. Alors Dieu m'a mis dans un avion pour voyager 14 heures de temps dans un vol interminable. Je pensais qu'il était dans la Sibérie quand j'ai débarqué. J'ai gelé tout rond. J'étais habillé en veston comme ça. Oh, j'ai gelé comme jamais dans ma vie en sortant de l'aéroport d'Orval. Et il m'amène dans un pays lointain, dans l'autre extrémité de la terre. Et je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai venu faire ici? Une chose, je me rappelle très bien, le frère qui m'avait amené au pied du Seigneur, là-bas au Pérou, il me voyait vraiment chancelante, là. Je vais ou je ne vais pas? Je reste au Pérou ou je m'en vais au Canada? Puis à dire vrai, là, je n'ai pas pris l'avion tout enchanté, là. J'étais tellement bien au Pérou, après qu'il acceptait le Seigneur, j'avais un ministère à la radio, j'ai chanté dans un orchestre chrétien, et j'avais tout mon, comment on dit ça, mon ambiance fait, là, mes amis chrétiens, j'ai projeté des films dans les églises, j'avais un ministère de films à travers une mission baptiste, alors j'étais heureux, là, dans ce que j'ai fait, j'étais vraiment heureux, mais le Seigneur me sort de là. Quand j'avais oublié que j'avais fait une demande pour venir au Canada, une autre demande pour aller aux États-Unis, une autre demande d'immigration pour aller en Australie, j'avais oublié tout ça. Ma vie nouvelle était nouvelle, puis j'avais oublié, j'avais laissé tout ça à l'arrière. Puis tout d'un coup, il m'arrive l'acceptation du Canada, immigrant reçu, billet en main. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Puis le concierge de l'église qui m'avait amené au pied du Seigneur m'a dit, ne crains pas d'aller où le Seigneur voudra t'amener. Parce que Dieu connaît ta vie mieux que personne. Obéis le Seigneur. Peut-être que le Seigneur t'amène là-bas pour quelque chose de grand. Puis tu l'ignores. Alors, je suivais les bons conseils de mon frère Célestin. Puis je débarquais ici à Dorval. Puis je me disais, pourquoi est-ce que j'obéis Célestin? J'arrive à Dorval, il me met tout de suite un représentant de l'immigration dans un autobus pour aller plus au nord, à Chicoutimi, pour étudier le français que je ne connaissais pas du tout. Je ne parlais pas au moins en français. Je ne le parle pas aussi très bien encore, mais vous me comprenez. Bon. J'ai étudié le français là, puis le Seigneur m'envoie plus au nord, m'envoie à Chibougamou. Oh! Tout sonnait très illogique à mon entendement. Savez-vous qu'est-ce que je m'avais fait comme promesse? Promesse secrète. Mon Dieu, je l'ai prié, quand je vais faire mon premier salaire dans ce pays, je retourne où est la chaleur, où est-ce que la chaleur habite. Mais le Seigneur m'a dit, J'étais à Chibougamou, par l'entremise de John Francis, qui était pasteur de l'église en ce moment-là. J'ai commencé à prendre des cours de Sembec. Puis c'est là qu'a commencé une autre histoire de ma vie. Saint-Bec. Ah, mes premières notes étaient les meilleures, là. Mais mon pasteur aussi, il jouait de mon côté, là, aussi. Il était patient, puis il était clément envers moi, il me donnait des bonnes notes pour me donner de l'encouragement. Puis finalement, de fil en aiguille, le Seigneur me ramenait tranquillement vers le sud. Ah, que c'est bon. J'étais dans le nord, chez Bougamou. Je m'approche de Saint-Bec parce qu'il voulait finir mon bac. Puis j'arrive à Granby. Oh, que c'est beau Granby, hein? Oh, avec ces beaux feuillus, là. Les gens, c'est très accueillant à Granby. Puis on commence là à faire un ministère à Granby avec la jeunesse. Puis de ce ministère, il y a 5 pasteurs qui sont sortis de là. C'est merveilleux, hein? Peut-être que Dieu m'a envoyé pour instruire ces 5 personnes-là, pour les animer au ministère, je ne sais pas. Je ne me lance pas les fleurs à ma main, c'est le Seigneur qui connaît toute la chose, là. Moi je ne connais rien, là. Je vous raconte seulement. Okay? Puis, aujourd'hui, on voit ces 5 pasteurs à l'œuvre. Puis, je suis étonné. Je suis dans l'émerveillement de voir comment Dieu a fait les choses. Après, je reçois mes études de Saint-Bec. Le Seigneur me permet d'être pasteur d'une église ici, une église hispanique à la rive sud. Mais pour moi, ça sonnait toujours à mon tendement. Le Seigneur est en train de me préparer pour mon travail missionnaire. Parce que j'avais à cœur toujours la mission. Malgré que j'étais un missionnaire à Chibougamou, c'est pas une mission ça? Hein? C'est loin d'ici, là. 10 heures de temps. À Chili, c'est 14 heures. Sauf que pas là, c'est en avion, pas là, c'est en auto. OK? Puis après, il nous a permis d'accomplir une mission à Granby. Après, il nous a permis d'accomplir une mission à Longueuil, chapeauté par l'église de Longueuil française. Et par après, dans un camp d'été, un camp de couple, qui je trouve? Le directeur de FEB International. Il se m'approche, c'était un grand anglais, okay? Il me fait comme ça, il me dit: Antonio, quand est-ce qu'on part en mission? J'avais un nœud ici dans la gorge, là. C'est le temps, là. C'est le temps ou c'est pas le temps? Mais c'était pas le temps encore. Il fallait faire la députation. Une autre mission. C'est une vraie mission, faire la députation. Alors, on a commencé à visiter toutes les églises du Québec. Mais Dieu nous a permis, avant, qu'on soit connu par les églises du Québec, avant de faire la députation. Puis c'était un bon quart de présentation, ça. Alors, nous sommes là, en mission aujourd'hui. Nous sommes en train de servir le Seigneur parce que le Seigneur l'a permis. Savez-vous, bien des fois, je vais vous dire honnêtement, là, notre premier mandat missionnaire était en Colombie. Puis je me rappelle bien une fois, quelqu'un à l'église ici s'approchait de moi. Puis il m'a dit: Antonio, avec un beau sourire, je suis en train de prier pour toi. Je lui ai dit: merci beaucoup. Mais pas pour que tu ailles, mais pour que tu restes. Moi, il pensait qu'il priait pour que je... C'est vous, je dis: pourquoi vous priez pour qu'il reste? Elle dit: tu n'as pas vu le reportage de la Colombie? Tu n'as pas vu qu'il y a du kidnapping? Tu n'as pas vu qu'il y a la guérilla? Tu n'as pas vu qu'il y a toutes sortes de crimes partout en Colombie? Elle dit: j'ai vu un reportage l'autre jour, puis j'ai eu des frissons. J'ai pensé à vous autres. Tu as pensé que si tu vas, tu peux revenir sans ta femme puis sans tes filles? Tu n'as pas pensé qu'il peut revenir tes filles et pas toi? Sans ta femme et ta femme non plus. Puis ces personnes-là, il y a eu un ministère envers moi. Il y a eu un ministère de consécration. Ah, oh, je m'ai mis à prière. J'ai dit: Seigneur, c'est vrai. Qu'est-ce que ces personnes-là, il dit, c'est vrai. Je connais le contexte de la Colombie et pour mettre les doigts dans la plaie, il est venu le directeur de la mission puis il m'a dit: très bien, Antonio, on s'en va en mission en Colombie. Il n'y a pas de rançon pour aucun missionnaire. Pas de rançon pour aucun... Non, aucune rançon. Chacun va là-bas avec ses risques et périls. Il m'a dit: est-ce que tu vas ou tu ne vas pas? Il a dit: j'y vais. Alors on s'est mis à prière. On a fait une prière là dans son bureau avec, en ce moment-là, Claudia, Pamela, Hélène et moi. Puis je lui ai dit: les filles, vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui. Hélène, tu sais qui ça veut dire ça? Oui. On y va. Puis on est parti en Colombie. Savez-vous quand est-ce que j'ai réussi à me réconcilier avec ces réalités? de que j'étais un missionnaire dans un pays dangereux quand j'étais assis dans l'avion. Facile, hein, je ne pouvais pas débarquer. Hein? J'ai dit, Seigneur, quoi qu'il soit, ça vaut la peine de vivre pour toi. Ça vaut la peine de mourir pour toi. Aucune chose me fera reculer, parce que ma vie, c'est pour t'aimer. Alors, on est allé en Colombie, on est revenu, puis je pensais que ma mission était accomplie. Le directeur s'est approché encore, il m'a dit, c'est quoi la suite? Ce n'est que le début, ça. On a accompli un couple d'années missionnaires en Colombie, on a accompli un couple d'années missionnaires au Chili, puis savez-vous, quand Dieu nous met l'eau à la bouche, on est assoiffé de voir la continuité des choses. Je vais être bien franc avec vous. Mes pieds sont ici, ma tête est ici, mais mon cœur est là-bas. Je pense à tous ces gens-là. Quotidiennement, je prie pour eux, afin qu'ils puissent grandir dans la foi, afin qu'ils puissent connaître davantage les mystères de l'Évangile, afin qu'ils puissent vraiment être équipés pour être des hommes et des femmes, ces gens-là, capables de reconnaître en Jésus-Christ l'unique sauveur et savoir remporter les flambeaux pour courir la bonne course et remporter les flambeaux de l'espoir pour ces gens qui sont affamés de la vérité. Frère, la pensée de Dieu pour les âmes perdues est claire. Comment invoqueront-ils à celui qu'ils n'ont pas cru? Il ne faut pas laisser les gens dans l'ignorance. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer, on doit parler. Et comment? Comment en entendront parler s'ils ne sont pas, s'il n'y a personne qui prêche? La prédication de l'Évangile s'avère une urgence dans les siècles que nous vivons, frères et sœurs. Ce n'est pas une option, c'est une urgence. Vous avez entendu passer quelquefois un chariot de pompiers pour s'ouvrir passage à travers la circulation? C'est comme ça qu'on doit aller avec l'Évangile, on doit parler, on doit crier que Dieu est vivant et on doit crier qu'il y a l'espoir en Jésus-Christ. On doit crier que le chemin au ciel n'est aucun autre que Jésus-Christ. Frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Comment entendront-ils? Connaîtront la foi? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avez-vous une Bible chez vous? Avez-vous une Bible avec vous? Nous avons beaucoup à dire de Dieu parce que nous connaissons la Bible. Elle nous a fait du bien à nous. Pensez-vous que ça peut le faire du bien à ceux qui sont perdus? Bien sûr. Alors, frères et sœurs, Dieu avait une pensée pour les nations. Il y avait une pensée, ça fait longtemps qu'il y avait une pensée pour les nations. Ouvrez avec moi à Psaume 98. Je vais vous parler juste quelques versets ici pour finir avec cette présentation. Le Seigneur avait déjà dans cette cantique une pensée à l'œuvre missionnaire, à faire du bien à les nations. Il dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Pourquoi? Car il a fait des prodiges. Il a fait des prodiges en Jésus-Christ. C'est un prodige merveilleux qu'a fait en Jésus-Christ de nous envoyer son Fils afin qu'il meure à notre place, afin que nous puissions vivre par lui, en croyant et en ayant la foi en lui. Chantons, chantez l'Éternel un cantique nouveau. Savez-vous, quand je chante, celui qui est à côté de moi dans les services, il sait que je chante. Moi, je chante. Je chante depuis le jour que j'ai accepté le Seigneur. Avant d'accepter le Seigneur, je chantais dans le monde. Je chantais dans des tavernes, je chantais dans des clubs. Puis, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit, c'est fini, maintenant je chante parce que j'ai une raison de chanter. J'ai la raison la plus sublime de chanter. Puis Dieu nous invite à chanter un cantique nouveau parce que lui a fait des prodiges. Savez-vous, quand vous chantez, quand vous louangez le Seigneur, chantez-le de tout votre cœur. Parce que ces prodiges sont évidents. Il faut que votre cantique soit évident. Amen. Frères et sœurs, même si vous chantez mal, chantez pareil. Il dit, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Ce n'est pas un Dieu qui se cache de nous. Il a fait des prodiges, puis a manifesté son salut. C'est évident devant nous. C'est plus clair que l'eau, n'est-ce pas? Père bien-aimé, il dit, l'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice. À qui? Aux cieux des nations. À travers qui? À travers les patriarches, les prophètes, Jésus-Christ, les apôtres, l'Église, avec ses missionnaires. Amen. Le Seigneur est en action actuellement. Le Seigneur ne dort pas. Ne cachons pas notre Bible dans une bibliothèque pendant qu'il y a du monde qui meurt autour de nous. On a beaucoup à dire, on a beaucoup à annoncer. Nous savons les secrets de la joie. Amen. Nous savons les secrets du bonheur. Si nous n'annonçons pas ce bonheur et cette joie, il y a beaucoup de monde qui va aller malheureux à l'éternité. Frère bien-aimé, il dit qu'il s'est souvenu de sa bonté, verset 3. S'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. N'est-ce pas? Et toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Toutes les extrémités de la terre. Le sud, le nord, l'est et l'ouest. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. À travers qui? Il continue à les voir à travers l'Église. On est là pour ça. C'est la raison d'être de notre vie comme Église. Amen. Mettez-vous évangéliser. Mettez-vous évangéliser. Puis savez-vous ce qui va arriver? Vous n'arrêterez pas. Parce que c'est beau. C'est beau quand une âme vient au pied du Seigneur puis reconnaît en Jésus-Christ que lui est le chemin pour aller au ciel. Frère bien-aimé, regardez ce qu'il dit à continuation ce psaume. Chantez à l'Éternel. Il donne ici une liste des instruments. Même la trompette est là, la harpe, les sons du corps. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Pourquoi des cris de joie? Parce qu'on est content. Quand vous achetez une nouvelle voiture, vous ne dites pas « Waouh, je l'ai eu mon auto hein? !» Il faut les montrer l'auto à tout le monde. Là. Tout le monde qui vient vous voir, là, vous les cassez la tête avec ça. Ok? Avec le Seigneur, on a la joie. La joie, des cris de joie, parce que lui est venu à notre vie. On a les plus grands trésors que personne peut nous vendre, parce qu'ils ne se vendent pas, c'est un don gratuit de Dieu. Fais éclater votre allégresse et chantez, chantez à l'Éternel. Poussez des cris de joie, dit le texte. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Est-ce que vous êtes habitants de ce monde? Éclatez d'allégresse, parce que Dieu a fait des prodiges. Amen. Frère bien-aimé, ces lunettes, il ne veut pas collaborer. Bon. Que les fleuves battent les mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car ils viennent pour juger la terre. Est-ce que vous serez content que le Seigneur vienne demain pour juger la terre, puis vous avez manqué de parler du Seigneur? Moi, là, honnêtement, là, ça me fait sonner les tripes quand je pense à ça. Imaginez-vous que le Seigneur arrive pour juger la terre. Puis vous saviez que vous avez un message pour ces gens-là, pour vos voisinages, pour votre famille, pour vos enfants. Oui, mais je l'ai parlé à mon enfant, puis il a la tête dure. Pas grave, c'est pour les têtes dures que le Seigneur est venu mourir. Parlez, en temps favorable ou non, parlez, s'il vous plaît, parlez, parce que le Seigneur vient juger la terre. Je ne veux pas avoir des comptes à rendre devant Dieu. Je veux être en règle avec Dieu. Mais je ne parle pas parce que je ne suis pas un évangéliste. Hein? L'excuse pas chère, hein, que le monde connaît là. Je ne suis pas un évangéliste. Moi. Je ne vais pas en mission parce que je ne suis pas missionnaire, moi. Je n'ai pas l'appel. Ah, laissez-moi vous dire que vous avez l'appel. Tous et chacun de nous ici, nous avons l'appel missionnaire. Vous ne croyez pas? Quand vous sortirez dehors de la porte, vous êtes en train d'épiler sur le terrain missionnaire, mes amis. Il y a une grande mission à accomplir dans cette ville. Nous avons une tâche immense à accomplir. Pas accomplir un seul missionnaire? Non. Tous nous sommes missionnaires pour la gloire de Dieu. Parce que tous nous avons été transformés par Christ. Amen. Si vous n'êtes pas transformé par Christ encore, demandez-le au Seigneur ce matin même de rentrer dans votre cœur. De lui dire, Seigneur, je t'ai ignoré, je t'ai mis au rancard pour longtemps dans ma vie. J'ai voulu faire à ma tête. Mais maintenant, je comprends que je peux être un missionnaire pour ce monde. Je peux transformer ce monde par une parole, par une bonne parole, par une parole qui sort de ta bouche. Mes frères bien-aimés, mon ami, si tu n'as pas encore accepté Christ, accepte-le. Accepte-le. Parce que demain, ça peut être trop tard. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de grâce. Je ne suis pas un évangéliste. Laissez-moi vous dire que tous nous sommes évangélistes. Imaginez-vous que je suis parti évangéliser. Je souris maintenant. Mais je suis parti évangéliser le lendemain qu'il y avait accepté le Seigneur. Le pasteur, il forme une équipe. Il y avait une équipe d'évangélisation dans les, pour aller dans la ville, partout dans la ville. Puis je me mets à côté dans les rangs. Le pasteur, il me regarde et me dit, Antonio, où tu vas? Évangéliser? Tu sais évangéliser? Non? Où tu vas? Je vais aller partager un petit traité. Le pasteur dit, quelqu'un d'autre voudrait aller partager des traités? Parce qu'on avait beaucoup de monde qui parlait de l'évangile, mais il n'y avait pas beaucoup de volontaires pour passer des traités. Puis, se sont ajoutées 5 ou 6 personnes avec moi, juste pour donner des traités. On était de nouveau convertis. Mais moi, j'ai donné un traité avec une main, puis avec l'autre oreille, j'écoutais ce que l'autre disait pour évangéliser. Moi, je pense que je me convertis 3 fois. Il y en avait un gars qui était évangéliste, mais qui était bon. Oh! Il est parlé une fois à une madame, là. Puis moi, je partais avec mon traité de l'autre côté, en pliant des traités comme ça, puis j'ai pleuré. Parce que le gars était tellement efficace et vrai dans ce qu'il disait, qu'il mettait une conviction dans mon esprit incroyable. J'avais hâte d'être à ce niveau-là. Pas juste donner un petit papier, mais de parler à quelqu'un du Seigneur. On l'a pris, on l'a pris. Comme on dit, l'emblème national de notre pays, par la raison ou la force. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Mais jamais je dis, je ne suis pas un évangéliste. Parce qu'on a quelque chose à dire. Il y a 2 raisons pour lesquelles une personne ne veut pas transmettre le message. 1, parce qu'il n'y a rien à dire. Il ne connaît pas le Seigneur. 2, parce qu'il ne veut pas s'engager avec la responsabilité de faire un suivi avec la personne. Savez-vous, on est trop entouré dans notre boule pour s'occuper de ces gars-là ou de ces femmes-là. Il m'occupe trop de temps dans ma vie. On a toujours quelque chose à dire. Frères et sœurs, si tu n'es pas évangéliste, laisse-moi te dire quelque chose. Ici, dans la parole de Dieu, en Jean 6, verset 7, dit, et je vous enverrai le consolateur, et ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il, vous avez écouté bien? Le Seigneur dit beaucoup dans des petits mots. Il convaincra. Qui? Le consolateur. C'est qui le consolateur? L'Esprit Saint. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est toi l'évangéliste ou c'est l'Esprit Saint? C'est l'Esprit Saint, mes amis. C'est l'Esprit Saint. C'est un pouvoir qu'il nous a donné. Tout pouvoir m'a été donné, dit le Seigneur. Puis ce pouvoir, il nous l'a partagé. Pourtant, il dit, allez, allez. C'est toute une autorité qui est en train de nous parler. Il a dit, toute autorité m'a été donnée en haut dans le ciel, puis s'y va sur la terre. Alors, nous ne parlons pas devant le premier ministre. Là. Nous parlons de Jésus, le Fils de Dieu, qui avait toute l'autorité pour t'exiger, s'il fallait, tout ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas une chose facile, ce que le Seigneur nous a demandé. Mais c'est possible, parce que c'est lui qui fait la job. Nous sommes juste des canaux pour conduire quelqu'un au Seigneur. Mais le Seigneur passe à travers nous, par son esprit. Ne te confie pas dans ta sagesse, dit la parole de Dieu. Ne te confie pas que tu es capable, mais confie que l'Esprit de Dieu t'habite, puis l'Esprit de Dieu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas toi qui vas parler, c'est l'Esprit de Dieu qui va le dire. C'est l'Esprit de Dieu qui va parler au cœur. Toi, tu parles aux oreilles, le Seigneur parle au cœur, n'est-ce pas? Alors, est-ce que nous avons un pouvoir ou nous n'avons pas un pouvoir? Mais oui, nous avons un pouvoir. Et le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Ah, je suis trop timide, je ne peux pas évangéliser. J'ai écouté ça de quelqu'un une fois. Je suis trop timide, je ne peux pas évangéliser. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et de sagesse. Si tu m'aurais connu quand j'étais dans le monde, et tu m'aurais placé ici en avant, et les chevilles m'auraient tremblé, j'aurais pas pu sortir ma voix, j'étais pas capable de parler en public. Jamais je l'aurais fait. Une fois, ils m'ont dit de dire un poème devant la classe, quand j'avais 14 ans, puis j'ai parti à pleurer. J'étais tellement... À 14 ans, j'ai parti à pleurer devant la classe. Parce que... Chez nous, tout le temps, ma famille me tapait sur la tête. Tu es inutile, tu ne sers à rien. Je me l'avais cru, cela. Puis une fois, le professeur, il m'a dit, tu serais bon pour dire ce poème, c'était l'anniversaire de l'école. Et je lui ai dit, cherche-toi un autre, là. Non, je te demande à toi, là. Je l'ai pris par cœur, ce poème. Dans ma chambre, je le disais, number one. Je me mettais devant le miroir, je disais le poème, tout. Quand j'arrive devant la classe, il n'y a pas un mot qui est sorti. Puis je me sentais tellement frustré qu'il est allé à plein cours à la chambre de bain, je me fermais des portes, puis je partais à pleurer. Cette grâce de pouvoir dire que Dieu est vivant, que Dieu est en action et qu'il fait encore des prodiges aujourd'hui, mes frères bien-aimés, ne vient pas de nous. Vient de l'Esprit de Dieu qui nous donne cette capacité, cette force, cette sagesse, mais surtout l'amour pour regarder le monde avec les yeux de Jésus. Qu'est-ce que Jésus voyait quand regardait les foules? Regardait la multitude comme un brebis sans pasteur, comme des brebis sans pasteur, comme des agneaux à la boucherie, à la dérive, sans aucun guide. Frère, prenons le défi d'évangéliser autour de nous. Nous avons beaucoup à faire. Mais nous avons un Dieu grand et tout puissant. C'est difficile, vous direz, oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Quand la crainte il vient s'emparer de toi, dis-lui, Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. Je n'ai pas reçu cet esprit de timidité, mais j'ai reçu cet esprit d'amour, de force et de sagesse qui vient du Très-Haut. Parle du Seigneur, ne t'étais point, car si nous ne le faisons pas, Dieu va nous demander des comptes quand viendra juger ce monde. Frères bien-aimés, soyez les témoins du Seigneur dans votre Jérusalem, dans la Samarie, allez jusqu'aux extrémités de la terre s'il le faut, mais allez et faites de toutes les nations des disciples, en les enseignant, en les baptisant et en les instruisant dans tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et merci de votre amour envers nous, envers la famille Bascugnan. Merci de votre patience envers mon pauvre français. Merci. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci, pasteur, pour l'opportunité que tu m'as donnée. Merci pour le soutien financier. Mais surtout, merci pour les prières. Merci pour les prières. Je le dis trois fois, merci pour les prières. La prière n'est pas tout dans la vie chrétienne, mais tout est par la prière. Que Dieu vous bénisse.